Parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Que la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Parlez-moi d'IA, présenté par Serge Habitboul.
Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je suis au micro pour l'animation de cette émission. Et même si la phase de rodage est passée, selon Jean-Philippe Clément qui réalise ce podcast, continuez à être tolérant, je ne suis pas un journaliste pro. Aujourd'hui, on va parler de commun numérique, de droit et d'IA. Ouais. Notre invité est Vincent Bachelet, un juriste en droit de la propriété intellectuelle et du numérique, spécialisé dans les questions liées aux licences libres et à l'organisation de commun numérique. C'est un des fondateurs, il était secrétaire général de CopCycle, un truc qu'on aime bien à cause commune et dont on parlera un petit peu. Il a soutenu une thèse en droit à l'université de Paris-Saclay, il est maintenant chercheur postdoctoral à l'université de Panthéon-Sorbonne. Alors, accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois ce que provoque l'éruption de l'intelligence artificielle dans notre vie, d'un point de vue social, culturel, éthique, technique, politique et tout.
Cause commune, 93.1 FM.
Vous êtes bien sur Cause commune, la voix des communs, la voix des possibles. Vous nous écoutez sur le web, cause-commune.fm et sur son app mobile. Sur la bande FM à Paris, sur 93.1 et sur le DAB+, en podcast sur votre plateforme préférée. Chers auditeurices, si vous appréciez Parlez-moi d'IA, si vous pouvez nous aider en likant et partageant notre émission. Cela nous fait connaître, car cela manipule les algorithmes et...
C'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA.
Dans ce podcast, on parle d'intelligence artificielle, une nouvelle science qui transforme le monde, mais on va aussi parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à Jean-Philippe Clément et à moi-même, les communs numériques. J'ai invité pour ça Vincent, qui est postdoctorant à l'université Panthéon-Sorbonne, pour nous en parler. Alors, en voiture avec Vincent. Bonjour Vincent.
Bonjour Serge.
Merci d'être avec nous en studio pour l'émission Parlez-moi d'IA. Peux-tu nous dire rapidement quel est le parcours qui t'a conduit à une thèse en droit dans le domaine du numérique, d'où tu viens ?
Oui, alors en fait j'ai fait un parcours assez classique en droit, une licence en droit privé, puis un master, un premier master en droit des affaires où j'ai découvert le droit de la propriété intellectuelle et c'est ce qui m'a vraiment plu. Et ensuite, dans le cadre de ce master de propriété intellectuelle, j'ai découvert le droit de l'open source et des communs numériques qui étaient relativement émergents à ce moment-là, parce que c'était le milieu des années 2010. Et j'y ai consacré mon mémoire de recherche en M2. Et j'ai fini avec plus de questions que de réponses. Et donc, je me suis dit que pourquoi pas poursuivre avec une thèse sur le sujet.
Ben voilà, on va arriver sur ta thèse qui porte sur la valorisation par le droit de la production des communs numériques. Alors, on va démarrer en douceur. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que c'est que pour toi les communs numériques ?
Oui, je pourrais. Alors, déjà, il n'y a pas de définition vraiment unanime, donc ça va être ma vision. Il y a une entente entre tous les chercheurs, tous les praticiens sur un triptyque, une communauté, une ressource, une gouvernance, et après c'est les agencements entre chaque qui changent. Moi, personnellement, je défends plus une approche des communs et des communs numériques par la communauté plus que par la ressource. Donc pour ce qui est des communs numériques, je défends l'idée que la ressource qui est produite doit être partagée sous licence libre, qu'il ne doit pas y avoir de restriction d'accès à la ressource, mais par contre qu'il y a une importance à accorder dans l'entretien de l'infrastructure matérielle, mais aussi humaine, ce que certains chercheurs ont appelé dispositif sociotechnique de production.
Et ça, c'est donc ce dispositif sociotechnique qui, associé à la communauté, forme pour toi la notion, la base du commun numérique, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Sachant que dans le cadre des communs matériels classiques, quand on va parler de champs, de forêts, que sais-je, c'est la ressource qui va être mise au centre, c'est celle qu'on produit, qu'on entretient. Dans le cadre des communs numériques, moi je défends l'idée que ce qu'il faut protéger, entretenir, c'est la communauté qui va, elle, à son tour, être en capacité de produire la ressource libre.
Vaste programme. Alors maintenant, on va zoomer un peu sur ta thèse. Dans ta thèse, tu questionnes des outils juridiques autour des communs. Tu les questionnes parce qu'il y a des problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas dans ces outils juridiques ?
Oui, alors il y a des choses qui vont pas, mais il faut quand même noter dans un premier temps qu'il y a énormément de communs et de communs numériques qui aujourd'hui existent et qui se sont structurés avec les outils existants, en particulier les associations et les coopératives, et que pour un grand nombre de projets, ces modalités de fonctionnement suffisent. Ensuite, moi, ce que j'ai pointé comme limite, c'est que ça conditionne un petit peu le développement de ces communs et de ces communautés. Il y a notamment deux facteurs très limitants dans le cadre juridique actuel, si on parle des associations et des coopératives. C'est très difficile de penser une vraie propriété collective en droit civil, ce que tendent à faire les associations et surtout les coopératives. Mais on est très limité parce qu'on a une conception en droit français de la propriété qui date de la Révolution, qui est au fondement du droit civil, qui est une conception absolue, exclusive et perpétuelle de la propriété. Et donc, on n'a pas vraiment de propriété collective. Dans le cas d'une coopérative, ce que va produire la coopérative appartient à la coopérative en tant que personne morale, et ensuite, il y a des agencements qui font qu'on peut penser que ça appartient un petit peu à chaque coopérateur. Donc ça, c'est vraiment la première limite. Et la deuxième, c'est que c'est très compliqué de vouloir jouer avec d'autres règles économiques que celles dominantes au sein d'une économie libérale capitaliste, et que dès lors qu'on essaye de penser d'autres valeurs, de la non-lucrativité, de la décorrélation entre le pouvoir économique et le pouvoir décisionnel, c'est très compliqué et ça conduit souvent soit à renoncer à ces principes et valeurs pour faire perdurer la structure, soit à mourir avec ces idées en général.
Donc j'ai pas très bien compris. Donc est-ce que ce que tu dis qui manque, c'est une notion de propriété qui soit mieux adaptée au commun, ou est-ce que tu penses qu'il faut sortir de cette notion de propriété et aller ailleurs? C'est quoi le cœur du sujet?
Alors je reste juriste, donc ça reste compliqué de penser en dehors de la propriété. Comme je disais, c'est vraiment au fondement. Ce que j'ai essayé de faire, moi, par contre, c'est de passer d'une logique de propriété collective, comme ce qu'on peut retrouver dans les coopératives, les associations, plus généralement dans les structures de l'économie sociale et solidaire, pour aller vers une propriété affectée, et qui est là plus méconnue en droit français, mais qui va exister dans d'autres systèmes juridiques, notamment les systèmes anglo-saxons.
Je suis pas certain que nos auditeurs aient vraiment tout saisi. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce que tu veux dire par là?
Oui, oui, oui. Ce que je voulais dire, c'est que donc dans l'idée d'une coopérative, je disais, ce qui va être produit par la coopérative, son capital, il va être détenu par la coopérative, mais qu'ensuite la coopérative elle-même est composée de l'ensemble de ses membres, et que chaque membre détient une fraction de la propriété de cette coopérative. Mais il n'y a pas de véritable propriété collective, dans le sens où les droits de propriété de chacun des coopérateurs se chevauchent pas, et chacun est propriétaire d'une portion de la coopérative dans la théorie juridique, et que ça peut poser un certain nombre de problèmes dans le cadre d'un commun. Notamment, ce que je disais, c'est que c'est compliqué de développer une activité économique autour d'un commun et d'un commun numérique, et que dans le cadre de mes recherches, j'ai pu observer plusieurs projets dont certains membres commençaient à défendre une volonté de sortir du système coopératif, de redevenir une entreprise classique, et ça aurait mis ça aurait compromis la nature du commun, puisqu'on serait revenu dans une logique classique.
Moi, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, et c'est pas nouveau, hein, il y a toujours eu des attaques contre les communs, même déjà du temps des communs physiques, hein, il y avait les enclosures, etc. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec les communs numériques, ils sont un petit peu encerclés, qui sont un peu attaqués de toutes parts, est-ce que c'est aussi ton impression? Et dans ces cas-là, est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir des réponses juridiques pour mieux défendre les communs? Est-ce que c'est ça ta thèse ou j'ai rien compris?
Non, c'est ça, on l'a vu récemment, je pense que l'exemple le plus emblématique de communs numériques, c'est Wikipédia, et aujourd'hui on voit les attaques que subit Wikipédia. Et donc moi, je suis arrivé un petit peu dans ces batailles-là, face à ces questionnements-là, avec les outils qui sont les miens, qui sont celui du juriste. Et ce que j'ai essayé de proposer dans le cadre de mes travaux, c'est de s'assurer par le droit que le commun reste un commun, quoi qu'il arrive à la communauté. Et pour ça, je suis passé par, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, de passer d'une propriété collective, donc qui appartiendrait à l'ensemble de la communauté, à une propriété affectée. Et donc là, on rentre encore plus dans de la théorie juridique, mais j'ai travaillé avec la fiducie, qui est très peu connue en France et qui s'apparente à du trust anglo-saxon. Et le trust est un peu plus connu parce que ça fait vraiment partie du paysage anglo-saxon, et donc après on peut en voir dans différents médias, dans la culture. Enfin, c'est un mot qui revient assez souvent. Et l'idée de la fiducie comme du trust, c'est pas une structure juridique comme va l'être la coopérative ou l'association, c'est un mécanisme, un contrat par lequel une personne va confier à une autre un ensemble de biens et de droits pour que cette deuxième personne les gère comme s'il en était propriétaire, mais sans être vraiment le propriétaire, dans un objectif qui a été fixé par la première personne. Et donc, ce faisant, on s'assure que le patrimoine qui a été transmis, donc là, si on reste dans la logique des communs, que le commun numérique reste un commun numérique. Il pourra pas être aliéné, il pourra pas être vendu, il pourra pas être cédé, il pourra pas être saisi. Il restera un commun numérique, quoi qu'il arrive.
Donc, il y a une certaine garantie de pérennité, d'une certaine façon.
C'est ça. C'était l'idée d'avoir cette pérennité. Et ensuite, de le recombiner, peut-être, alors, plutôt que de défendre une propriété collective, d'avoir une gestion collective de cette ressource. Donc, en imaginant que moi, j'ai commencé à développer un commun numérique dans mon coin, je le confie via cette fiducie à une coopérative qui, elle, va le gérer selon les règles et les principes coopératifs, au bénéfice, pas d'une personne donnée, mais du plus grand nombre, puisqu'on est dans le cadre d'une ressource libre et ouverte.
Ce qui correspond bien assez bien à l'intuition que dans le cas d'un commun numérique, comme un logiciel open source, la propriété n'est pas importante. Ce qui est important, c'est ce que tu as le droit de faire avec.
Oui, c'est ça. Et encore plus, je pense, et là, à mesure que je travaille sur les sujets de l'intelligence artificielle et la propriété intellectuelle, et on y reviendra, c'est surtout qui est en capacité de générer et de capter de la valeur sur le commun, pas tant qui en est le propriétaire.
Et qu'est-ce qu'il peut donner en retour, d'une certaine façon.
Oui, c'est ça.
Ok, super. Alors là, on va arriver un peu au cœur de notre podcast. Notre podcast, comme je te le dis, c'est l'intelligence artificielle. Alors, dans le cas de l'intelligence artificielle analytique, il y a un logiciel open source, Scikit-learn, qui est un énorme succès. Maintenant, tu es un chercheur postdoctorant à l'Université Panthéon-Sorbonne et tu travailles plus spécifiquement sur les IA open source. Alors, comme beaucoup, j'aimerais vraiment comprendre quelle est l'articulation entre commun numérique et IA, parce que d'une certaine façon, on sent bien toutes les inquiétudes qu'il y a aujourd'hui à voir ces IA génératives, notamment mettre en péril les communs numériques.
Oui, pour moi, sur ce point-là, il y a deux sujets quand on parle d'intelligence artificielle open source. Il y a le développement d'une intelligence artificielle open source comme on développerait un logiciel open source, et ensuite la confrontation, entre guillemets, comment l'écosystème open source et plus largement celui des communs numériques est attaqué, menacé par les intelligences artificielles génératives. Sur le premier point, sur la question du développement d'une intelligence artificielle open source, il y a beaucoup de questionnements parce que il y a une définition qui a été donnée dans le règlement sur l'intelligence artificielle de ce qu'est une IA open source, qui a le mérite d'exister, mais qui est très incomplète et qui a permis à pas mal d'acteurs, notamment Meta, de se revendiquer de l'open source pour bénéficier des exemptions qui y sont attachées sans vraiment répondre à la finalité même de l'open source, qui est de permettre la réplicabilité de ce qui est partagé. Et donc, il y a eu une proposition alternative de définition par l'Open Source Initiative, donc la fondation qui défend la définition de l'open source pour les logiciels, qui là aussi est un peu plus opérationnelle, mais qui en même temps a certains points de flou qui la rendent difficilement applicable juridiquement. Donc déjà, on a du mal à voir si une IA open source pourrait exister en tant que telle. Et donc, de faire d'une IA un commun, ça me paraît encore plus compliqué. Par contre, là où c'est plus intéressant pour moi d'aborder la question des communs numériques et de l'open source, c'est celui de la mobilisation des communs numériques comme un outil de défense face au pillage, parce que je pense que c'est le bon terme, qui est opéré par les fournisseurs de modèles d'intelligence artificielle, pillage des données qui sont partagées sous licence libre, mais pas seulement. On commence à se rendre compte que...
D'accord. On va y aller doucement, parce que là, on arrivera au pillage tout à l'heure, parce que ça, c'est important. Mais là, je suis pas quand même complètement confiant d'avoir compris, parce que pour moi, d'abord, est-ce qu'on parle d'IA analytique, d'IA générative? Si on parle d'IA générative, qu'est-ce qui est un commun numérique? Est-ce que c'est le logiciel qui a permis de créer l'IA? Est-ce que c'est le modèle qu'on a obtenu? Est-ce que c'est les données qui ont été utilisées pour entraîner le modèle? De quoi on parle exactement quand on dit qu'une IA générative est en, en open source.
Alors moi je travaille essentiellement, exclusivement en fait sur les IA génératives et plus particulièrement sur les modèles de langage. Ensuite, quand je reviens aux textes juridiques, c'est des textes qui définissent l'IA de façon très large. Et donc, comme je disais, le règlement sur l'intelligence artificielle, il définit l'intelligence artificielle comme celle dont le modèle, les poids et les paramètres sont partagés sous une licence libre et ouverte. Et
il envisage... C'est le modèle. Hein.
Ça, c'est le modèle, ouais, le modèle, et ça va jusqu'au poids quand même, donc d'accord, un niveau un peu plus fin. Mais le RIA traite pas du tout de la question des données.
D'accord. Et donc, on peut officiellement se dire qu'on est open source parce qu'on a construit un modèle et qu'on laisse les gens se l'approprier. Est-ce qu'on peut, on les laisse aussi le modifier, l'enrichir, etc.
Oui, c'est ça. Une fois que le modèle est partagé sous une licence libre qui va être celle des licences libres logicielles, souvent on va retrouver la licence Apache pour l'essentiel des modèles, du moins que j'ai eu à étudier. Dès lors qu'on fait ça, qu'on partage aussi donc les différents paramètres qui ont permis de configurer un petit peu le modèle, et donc ça va de pair avec les dernières données, ce qu'on appelle de fine-tuning, donc vraiment l'entraînement final du modèle. Là, on peut être considéré comme un modèle libre et ouvert.
Donc, pour être concret, est-ce qu'il y en a?
Oui, il y en a, parce qu'en fait c'est pas vraiment le cœur du réacteur que le code du modèle, même les poids, les paramètres, la configuration fine du modèle. Si on a que ça, sans avoir les premières données d'entraînement massif sur lequel le modèle a été entraîné, on peut pas répliquer exactement le même modèle. Donc en fait c'est partager quelque chose qui pourra de toute façon pas être répliqué. C'est pour ça que je disais qu'on rate la finalité première de l'open source, qui est de permettre la réplicabilité par qui le souhaite, puisque on fournit une carcasse mais qui sera jamais une réplique identique de ce qui existe.
Mais pour pouvoir le répliquer, il faudrait avoir la liste des données d'entraînement.
C'est ça, il faudrait l'ensemble des données sur lesquelles le modèle a été entraîné, oui.
Y compris les données truandées qui ont été volées à droite à gauche.
Voilà, qui ne sont pas partagées et qui ne font pas partie des exigences du règlement pour être considérées comme un modèle un modèle d'IA libre et ouvert.
D'accord, mais bon, modulo cette ambiguïté, est-ce qu'il y a des systèmes qui se revendiquent et qui sont, selon cette définition, open source?
Oui, selon la définition du règlement, il y en a qui sont open source, et les fournisseurs, les gros fournisseurs de modèles d'IA ont tout intérêt à se revendiquer comme étant conforme à la définition open source du RIA, parce que derrière, ça s'accompagne d'un certain nombre d'exonérations, notamment en ce qui concerne les obligations de transparence qu'impose derrière le modèle et qui ne s'applique pas à ces modèles libres et ouverts, parce qu'on considère que parce qu'ils sont libres et ouverts, ils sont de facto transparents et donc ils n'ont pas à se conformer aux obligations de transparence.
D'accord. Mais quand même, bon, sans que ce soit parfait, ça permet de reprendre le modèle et de l'enrichir et de travailler avec quand même.
Ça peut, mais ce serait, en fait, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce serait comme donner une voiture, donner le moteur, il y a tout dedans, mais il n'y a pas d'essence. Donc en fait, on peut pas le faire fonctionner. Il faut avoir accès à un grand nombre de données pour faire fonctionner un modèle et pour que le modèle soit performant. Et c'est aussi la difficulté qui se pose si un acteur voulait développer un modèle entièrement open source et donc uniquement entraîné sur des données accessibles sous licence libre. Il n'y a pas assez de données accessibles sous licence libre pour entraîner un modèle qui soit suffisamment performant, en tout cas pour rivaliser avec les modèles principaux du marché.
Mais quand même, les modèles principaux du marché, d'après ce que j'ai compris, sont quand même massivement entraînés avec Wikipédia, Software Heritage et des données d'open source.
Oui, ça fait partie du corpus, mais c'est qu'une infime partie de ce qui va être utilisé.
D'accord. Donc maintenant, arrivons à l'autre facette du problème, qui est le pillage. Est-ce que tu pourrais illustrer un petit peu cet aspect-là?
Oui. En fait, le pillage, là, pour le coup, ne concerne pas uniquement les communs numériques ou le logiciel libre, même si on l'a dit, Wikipédia est sans arrêt moissonné par des robots qui viennent collecter les données plusieurs fois par jour pour quasiment tous les opérateurs. Software Heritage, pareil, se posait la question de comment faire face à ça, puisque au-delà de la captation des ressources immatérielles, ça pose aussi des questions sur l'infrastructure. Et donc là, les serveurs sur lesquels sont partagés les codes de Software Heritage, parce que ici, il y a plein de robots qui viennent faire des requêtes sur ce serveur-là, les serveurs crashent et du coup, la ressource n'est plus accessible. Et donc, on reboucle sur ce que je disais au tout début sur l'importance de l'infrastructure matérielle dans le cadre des communs numériques. Mais donc ça concerne les ressources libres, mais ça concerne plus globalement l'ensemble des ressources et des œuvres protégées par du droit de propriété intellectuelle et qui sont accessibles en ligne. Et chaque jour, il y a un article de journal ou une nouvelle affaire judiciaire d'ayant droit qui porte plainte contre des fournisseurs de modèles IA parce que leurs données sont utilisées à des fins d'entraînement des modèles.
Oui, mais là, il y a le droit. Donc, un jour, ils finiront par perdre des procès et se faire allumer. Mais pour les communs, c'est légal, non ? Il y a rien qui défend vraiment Wikipédia contre les gens qui pillent complètement toutes les données de Wikipédia pour s'en servir, pour entraîner leur modèle. Et pareil pour Software Heritage.
Oui.
Et ça, c'est véritablement un problème, non ?
Oui, c'est un problème. Enfin, c'est un problème, mais ça n'en est pas un, puisque dans l'éthique du libre initial, il y a cette volonté de laisser qui le souhaite réutiliser les données pour en faire ce qu'il veut derrière, avec une condition qui est parfois de repartager les modifications qui en sont faites à l'identique. Et là, ça pose une question, notamment pour tout ce qui est utilisation de code source partagé sous licence copyleft et de maintien de la licence copyleft sur les productions générées par IA, puisque en fait l'IA ne sait pas qu'il y a une obligation de partage à identique, ne va pas le mentionner à la personne qui a fait le prompt, et donc il y a une vraie mise en péril de l'écosystème open source, d'une part parce qu'il y a de moins en moins de contributions qui sont apportées, mais aussi parce que ça a beau être de l'immatériel, l'écosystème de l'open source et du logiciel libre repose sur les interactions entre les personnes, même à distance, via des forums notamment, et là on l'a vu récemment, les chiffres de Stack Overflow, qui est le forum de référence, entre guillemets, pour des questionnements autour du fonctionnement des logiciels. Quand on a un problème, on pose la question sur Stack Overflow et il y a quelqu'un dans la communauté qui va y répondre. Les contributions, les échanges sont en chute libre parce que les gens ne passent plus par ce forum-là. Ils interrogent une IA qui va, elle, aller chercher la réponse dans le forum. Donc il y a énormément, effectivement, de problématiques qui se posent à l'écosystème du libre et des communs du fait de l'utilisation massive des IA génératives, oui.
Oui, tout à fait. On voit même, plutôt que d'aller regarder dans Wikipédia, on peut poser une question à une IA générative, oui, qui va donner la réponse de Wikipédia, mais sans vous dire que c'est la réponse de Wikipédia, bien sûr. Donc oui, il y a s'inquiéter de défendre ces communs numériques, c'est vraiment clair. Alors, il nous reste un petit peu de temps. Et il y a un sujet qui nous intéresse beaucoup, et on a vu que tu étais fondateur et secrétaire général de Coop Cycle. Moi, personnellement, je trouve ça passionnant, et j'aurais aimé que tu nous dises un petit peu ce que c'est. Alors, même si c'est un peu une digression, on n'est plus dans l'IA, on n'est plus dans le sujet, mais quand même, ça, c'est quand même assez proche, il ne manque pas une idée. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu et nous dire où c'est, où c'en est ?
Oui, je peux en parler rapidement et vous donner les dernières actualités, puisqu'on a fait notre assemblée générale la semaine dernière, donc j'ai des nouvelles plutôt fraîches. Mais Coop Cycle, c'est un projet qui va avoir 10 ans cette année. Ça a été créé en 2016 de la rencontre d'un livreur à vélo et d'un développeur pendant les événements, les manifestations de Nuit Debout. Et l'idée initiale, ça a été de développer une plateforme logicielle pensé comme un commun, de façon à ce que les livreurs à vélo puissent continuer leur activité sans dépendre des plateformes. Alors à l'époque, il y en avait plus que ça, mais elles s'effondrent les unes après les autres. Mais donc l'idée, ouais, c'était de redonner aux livreurs à vélo la propriété sur leur moyen de production. Donc il y a eu tout un travail, évidemment, d'ingénierie logistique pour développer le logiciel, mais aussi derrière... On a été une petite dizaine de bénévoles autour du projet à penser un modèle économique pour certains. Moi, plus les questions de la gestion de la propriété intellectuelle. Est-ce qu'on partage le logiciel sous licence libre? Est-ce qu'on fait une licence qui est un peu plus restrictive pour empêcher n'importe qui de s'en resservir, etc. Et le projet a plutôt bien grossi. Donc ça, sur le volet vraiment fédération, en fait, de collectifs de coursiers et coursières qui sont regroupés autour du maintien de ce logiciel, mais aussi d'autres communs qui se sont développés petit à petit. Il y a notamment un certain nombre de formations qui ont été développées en commun par les coopératives les plus anciennes pour former les plus nouvelles, etc. Et l'objectif, ça a toujours été, pour les bénévoles comme moi qui étaient à l'origine du projet mais qui sont pas coursiers ou coursières, de laisser la complète gouvernance de cet outil et de la fédération qui l'encadre au livreur. Et donc ça fait 2 ou 3 ans qu'on n'est plus impliqué dans la gouvernance, mais que l'association Coop Cycle continue d'exister, avec aujourd'hui comme principale mission l'accompagnement de travailleurs, notamment sans papier, qui continuent à œuvrer pour via des plateformes comme Uber ou Deliveroo, avec la création de plusieurs maisons des coursiers ou maisons des livreurs. Il y a les deux noms selon les villes. Donc, il y en a une à Paris depuis 2018, je dirais, non, un peu plus tard. Il y en a une à Bordeaux, il y en a une qui est en cours de création à Nantes, et il y en a deux en projet à Marseille et à Lyon. Et donc là, c'est l'idée d'avoir un point d'accueil pour faire de l'accompagnement administratif, mais aussi une sensibilisation syndicale presque auprès de ces livreurs-là pour les aider à défendre leurs droits et faire entendre leur voix dans un monde qui les invisibilise fortement, à l'exception d'un film, La Voix de Suleiman, qui est sorti il n'y a pas très longtemps.
Et super. Ouais. Pour fixer un peu les idées, c'est CopCycle, c'est combien de livreurs en ordre de grandeur?
J'ai pas les derniers chiffres, parce que comme je disais, je suis plus du tout impliqué dans la partie fédération de coopératives de coursiers. Les dernières nouvelles que j'ai eues, par contre, c'est qu'il y avait beaucoup de nouveaux collectifs qui se créent et qui rejoignent le projet. Donc, je dirais qu'on est autour de 30 collectifs coopératifs de livreurs un peu partout en Europe, mais le nombre de livreurs par coopérative varie grandement, donc je ne saurais pas dire.
Et un collectif, c'est quoi? C'est une ville?
Oui, en général, il y a un collectif par ville. Il y a peut-être un cas à Nantes où il y a deux coopératives, mais qui sont en voie de rapprochement si elles n'ont pas déjà fusionné. Il y en avait une qui faisait exclusivement de la livraison de repas et l'autre qui faisait exclusivement de la livraison entre professionnels, donc il n'y avait pas vraiment de concurrence entre les deux, mais sinon oui, on a une coopérative par ville, et ça couvre le territoire d'une ville moyenne en général.
Super. Bon, bah, c'est l'heure de conclure. Merci Vincent pour ce partage de tes connaissances, de tes expertises, de tes passions. Ça a été super sympa de vivre cela avec toi. Jean-Philippe Clément et moi-même sommes tous les deux passionnés par les communs numériques. Tu nous as vraiment intéressés. J'espère que les auditoristes nous ont aussi accompagnés. Trop merci Vincent.
Bah, merci beaucoup pour l'invitation et pour m'avoir écouté.
Merci à vous, chers auditeurs. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à utiliser votre grand pouvoir, liker et partager. Cela stimule l'algorithme pour nous proposer à d'autres, et surtout laissez-nous vos commentaires et impressions sur Apple Podcasts, Spotify ou LinkedIn, car cela nous fait extrêmement plaisir d'avoir vos retours. Faites-le surtout. Restez sur 93.1 sur Cause Commune et à bientôt.